Bonjour, bon dimanche. Avec plaisir, Noël Ruffieux vous retrouve ce matin sur les ondes de Radio-FR, Radio Fribourg, dans l'émission Coin de ciel. Dimanche dernier, François Gachou, ancien professeur de philosophie au Collège du Sud à Bulle, nous a parlé de son dernier livre, La philosophie comme exercice du vertige. Je ne veux pas résumer ses propos, rappelons simplement que l'auteur nous propose un certain nombre de voies d'accès à la réflexion philosophique sur les grandes questions de l'existence. Pourquoi j'existe? D'où me vient la vie? Qu'est-ce que vivre, désirer, aimer, créer, mourir? Comment pouvons-nous, à partir de notre existence, de ses aléas et de ses épreuves, mais aussi de ses joies, comment pouvons-nous parvenir à une conscience assez claire et vivante de notre vie pour dire que nous vivons vraiment et non virtuellement, et que nous vivons dans la dignité et la liberté? Ces questions nous apparaissent comme des abîmes sans fond, au point que souvent nous renonçons à y voir clair, à chercher des réponses. Et si l'on est assez lucide, ces abîmes provoquent un sentiment ambigu de vertige, à la fois fascinant et inquiétant. La vie quotidienne propose sans doute des dérivatifs, des divertissements, mais les questions demeurent. Et est-ce bien digne de l'être humain que de détourner son regard de ce qui nous inquiète, parce que cela nous questionne, nous désarçonne, nous fait perdre pied? Cette expérience du vertige apparaît alors comme l'origine possible de réponses à élaborer pour nous, pour que notre vie se situe bien dans la pleine lumière, la lumière de midi, comme disait Albert Camus, la lumière de la vérité, et qu'ainsi notre vie puisse avoir un sens. L'entretien de dimanche dernier a touché plusieurs fois à la limite entre le doute et la certitude, ou la foi et la non-foi. Ce sera la matière d'aujourd'hui, dirait le professeur. François Gachou, autour de ton livre « La philosophie comme exercice du vertige », nous sommes aux lisières de la foi, aux lisières du lien entre la certitude et le doute, et tu parles d'ailleurs du vertige de la foi. Et dans ce chapitre, il y a une phrase qui peut choquer certains. Tu écris « Le savoir rassure, la foi non ». Or justement, beaucoup de croyants pensent ou espèrent que la foi est quelque chose de sécurisant, comme une assurance tout risque. Et à ce sujet, tu dis, c'est se donner des raisons de se rassurer. Et pour éclairer la démarche de la foi, tu as cité l'exemple d'Abraham à travers la lecture qu'en fait Kierkegaard, mais tu cites aussi cette étonnante formule du philosophe Immanuel Kant, je dis bien Immanuel pour rester fidèle à notre vieux maître, le père Boshensky, « J'ai limité le savoir pour faire place à la foi ». Explique-nous.
Voilà, je crois, un grand sujet et peut-être le cœur de l'essentiel quant à ce que la foi peut nous apporter. Si nous croyons que les certitudes sont seulement celles que la raison apporte, c'est-à-dire la certitude du savoir, il est vrai que ces certitudes-là, expérimentales, démontrées par des lois physiques, biologiques, chimiques, etc., il est vrai que là, nous avons des preuves. Là, nous pouvons vérifier. Nous sommes dans le domaine de la matière, de l'espace, du visible, du mesurable. Mais peut-on mesurer l'acte de foi? Peut-on mesurer l'amour qu'on donne à quelqu'un? Peut-on démontrer que tu m'aimes ou que je t'aime ou que nous nous aimons? Peut-on démontrer que nous avons la foi en quelqu'un? Il ne s'agit pas de démontrer. Il ne s'agit pas de prouver. Il ne s'agit pas de vérifier. Comme dans les sciences expérimentales, quand il s'agit de la foi Si on pense qu'elle est un moindre savoir, on va bien sûr ne pas savoir ce que c'est, on va la déprécier, on va dire « mais le jour où nous pouvons tout expliquer, la foi n'est plus nécessaire ». Combien de philosophes et surtout de scientifiques ont déjà dit cela il y a un ou deux siècles? Mais je constate qu'aujourd'hui, les scientifiques sont beaucoup plus prudents et ne méprisent pas la démarche de ce qui dépasse la raison. La raison elle-même est dépassée parce qu'elle est limitée. Nous n'avons le dernier mot sur rien et nous pouvons toujours douter même des certitudes de la soi-disant raison qui voudrait tout prouver, car elle ne prouve pas tout. Alors la foi n'est pas du tout basée sur un savoir qui serait moindre. La foi, elle intervient, non pas quand nous sommes en relation avec des choses qu'il faut expliquer comme un théorème de maths ou de physique, la foi intervient quand nous sommes en relation de sujet humain à sujet humain, de personne à personne. Et dans l'acte de foi, au fond c'est quelque chose d'extrêmement simple, croire c'est s'en remettre à quelqu'un dans la confiance que nous lui donnons. Et quand je m'en remets à quelqu'un à qui je fais confiance, il n'y a pas d'assurance à rechercher de ce côté-là. La foi ne rassure pas. Chercher à avoir la foi pour se donner des raisons de se rassurer en disant « j'ai un billet pour la vie éternelle parce que je me dis croyant », ce souci-là n'est pas un acte de foi. Finalement, si on y réfléchit, si la foi consiste à donner sa confiance à quelqu'un, c'est un élan qui n'est pas un calcul. C'est un élan spontané qui n'a rien de rassurant et qui comporte toujours ce risque que l'autre pourrait nous décevoir. Si l'on met toute sa confiance en lui et qu'il nous trahit, alors il nous déçoit et notre élan de foi et de confiance tombe, nous la perdons. J'aime bien qu'on essaye d'approcher la foi comme cette confiance inconditionnelle qu'on donne. Et je ne puis pas trouver meilleur exemple que cet enfant qui donne sa confiance à sa mère en se jetant dans ses bras ou à son père, parce qu'il ne peut pas douter qu'on le trompe, parce qu'il ne saurait pas lui-même se demander « mais est-ce que je fais bien de donner ma confiance à ma mère et à mon père ?» Il ne fait pas à l'enfant l'examen de son propre élan. Il la donne, cette confiance, et il ne peut d'ailleurs la donner que parce qu'il se sent aimé et reconnu dans l'amour. La clé de la foi, elle se trouve dans l'amour dont nous sommes aimés. Et si nous sommes aimés, nous savons que nous pouvons faire confiance à ceux qui nous aiment, parce que nous recevons d'eux le fondement de cette confiance. Alors, se pose la question de la foi au sens religieux. Pourquoi croire en Dieu? Qui est Dieu pour que nous puissions y croire? Nous ne pouvons pas savoir Dieu. Alors la foi, je dirais, ce n'est pas d'abord l'adhésion à des dogmes, à des doctrines, la doctrine catholique, la doctrine protestante, etc. Ou ce n'est pas non plus l'adhésion à une autorité ecclésiastique. Et la foi aux sciences religieuses, c'est pas, ça ne consiste pas à faire un cours pour démontrer que Dieu existe. Non, la foi aux sciences religieuses, c'est rencontrer Dieu comme quelqu'un à qui je donne ma confiance. Parce qu'évidemment, alors ça suppose qu'il est lui l'auteur de la vie que j'ai reçue, et ça suppose qu'il nous aime. Du point de vue de la raison, Dieu nous est complètement inconnu. L'incroyant comme le croyant ne connaissent pas Dieu par la raison. La raison ne pénètre pas l'intimité de la vie de Dieu. Nous sommes finis. Il est infini. Nous sommes dans la matière, le temps et l'espace, et nous sommes mortels. Dieu n'est ni dans le temps ni dans l'espace. Il est éternel. S'il existe, il est immatériel et invisible. Il dépasse complètement la raison. C'est jamais par là que nous allons rencontrer Dieu. Donc nous ne pouvons faire l'expérience de la foi en Dieu que si Dieu se manifeste à nous. Et comme je le disais dans l'expérience de l'enfant qui donne sa confiance parce qu'il est aimé, si il nous a aimés et qu'il nous montre qu'il se manifeste à nous par amour, alors nous pourrons y croire. Et c'est une rencontre mystérieuse, comme dit Pascal, j'aime beaucoup sa définition, Qu'est-ce que la foi ? Il dit « Dieu sensible au cœur », ce qui connote l'expérience d'être aimé, non à la raison, dit-il. Et saint Augustin, qui pendant des années a cherché Dieu avant de l'avoir trouvé, disait que pendant qu'il le cherchait, il le découvrait déjà. Parce que quand Dieu se dévoile, dit Augustin, je découvre qu'il est finalement plus intime à moi-même que moi, et c'est dans cette conscience intime que Dieu est à chercher, à quêter son existence, et non pas dans le ciel lointain de son inaccessibilité du point de vue de la raison. Dieu est au plus profond de notre intériorité quand on le découvre, et donc nous découvrons ce fameux thème purement biblique de l'Alliance. C'est là que Dieu nous appelle. Dans l'Évangile, Jésus-Christ se présente comme envoyé de Dieu pour nous conduire à la foi en nous disant que Dieu nous appelle, et lui-même ajoute « Celui qui m'accueille, puisque je suis l'envoyé de Dieu, il accueillera celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. » Donc, dans l'expérience de foi, il y a toujours le sentiment d'être aimé, et Dieu est la racine de l'amour et la plénitude de l'amour. Et il nous aime plus que nous-mêmes. Et puis deuxièmement, par là même, il nous appelle à l'accueillir. Et l'accueillir, c'est au fond se laisser conduire. Je n'ai pas à contrôler ma foi et à être maître de ma foi, comme je contrôle ma raison et ma conduite quand je suis dans une voiture. Non, la foi est un acte de confiance totale, un acte qui a une portée infinie puisqu'il nous met devant l'auteur de la création, de la vie et de l'amour, et c'est un acte qui est posé devant l'absolu. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Kierkegaard, dans Crainte et tremblement, puisque tu le citais tout à l'heure, donne l'exemple admirable d'Abraham qui s'est complètement laissé conduire par un appel d'un Dieu inconnu qu'il connaissait pas, mais en qui il a fait confiance. Quand Dieu lui dit qu'il aura un fils alors que sa femme ne pourrait plus enfanter parce qu'elle est très âgée, il dit « Bon, ben, puisque c'est comme ça, j'y crois et ça se passera. » Et Sarah rit, mais Abraham y croit. Et puis, quand il s'agit de sacrifier, évidemment, son fils, dans un contexte où, à l'époque, dans la plupart des religions, on faisait encore des sacrifices d'enfants, cette mise à l'épreuve d'Abraham qui va jusqu'à dire « Puisqu'il me l'a demandé, il en sait les raisons, moi je ne les connais pas, mais je vais me laisser conduire. » Et puis, à la fin, Dieu lui montre que ce n'était qu'une épreuve et qu'il le loue parce qu'il a cru dans celui qui nous dépasse. Abraham s'est désapproprié de lui-même pour donner sa confiance absolue en Dieu. Il a dépassé l'absurdité apparente de la raison qui lui aurait dit « Mais il y a tant de raisons de ne pas croire, c'est absurde de croire. » Eh bien, dit Kierkegaard, c'est quand on traverse l'absurdité de la raison qu'on peut découvrir au fond la foi. Et je terminerai peut-être sur cette idée que la foi n'est pas un pari. Parce que le parieur, c'est encore quelqu'un qui spécule et qui fait une démarche rationnelle parce qu'il veut à tout prix se persuader que ça vaut la peine de parier sur Dieu. Quand Pascal parle du pari, d'ailleurs, qui est un argument célèbre, il ne s'agit pas de dire « par le pari, je découvre la foi ». Lui, il en faisait un argument pédagogique auprès de ses libertins qui, à l'époque, étaient des grands joueurs. Alors, il essaye de trouver un argument pour leur dire « mais ça vaut la peine que vous le cherchiez, mais vous devez le chercher. Il ne va pas, par le pari lui-même, vous apparaître dans l'évidence. Il faudra que vous fassiez un acte de foi. »
Plusieurs choses que tu as dites concernant la foi me semblent valoir aussi pour ce qui concerne l'amour. ce dépassement, en quelque sorte, de l'absurdité, du vertige de l'absurdité, pour pouvoir poser l'acte de foi, c'est un peu comme le dépassement aussi d'une sorte d'absurdité quand on s'engage par rapport à une femme, sachant que ça peut durer 50 ans, que ça peut durer 60. Et il y a quelque chose là qui fait que la foi s'abandonne soi-même à l'autre. Et en même temps, pour rappeler des choses que tu dis concernant la résurrection, tu dis ça, tu parles de la résurrection dans le début de ton livre, me vient à l'esprit le fait que croire en quelqu'un, comme aimer quelqu'un, c'est en quelque sorte le faire exister. Et on ne peut pas oublier la belle phrase de Gabriel Marcel qui dit « Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est lui dire « toi tu ne mourras pas ». Est-ce que dans ta démarche, dans ces exercices de vertige, est-ce que tu t'es senti assez proche l'une ou l'autre fois de ces découvertes ?
Dans le chapitre que j'ai intitulé « Vertige d'aimer », j'ai essayé d'abord de montrer que la connaissance nous rassure parce que la raison qui analyse peut démontrer des choses. Et j'ai affirmé que si la connaissance nous rassure, quand on sait vraiment, l'amour toujours nous déconcerte. Et pour prendre l'exemple originel de l'expérience de tous, tomber amoureux un jour, n'est-ce pas justement être mais complètement déconcerté ? En ce sens que l'autre, que je ne pénètre jamais par connaissance, je ne connais pas les autres, je n'entre pas dans leur intimité. Et tout d'un coup, cet autre, il fait irruption dans ma vie, et cette présence de l'autre en moi, cette présence intérieure de cette personne qui m'attire et que j'aime en moi, crée en quelque sorte une seconde existence qui n'est pas la mienne et qui pourtant me fait exister si fortement que je trouve finalement que l'autre est plus important quelque part que moi. Et s'il n'était pas cet autre, cette femme par exemple que j'aime, plus importante que moi, pourrais-je lui faire confiance au point de dire « je veux t'épouser, je veux me donner à toi, et si elle-même, tu vas te donner à moi ». Il y a là, je crois, dans l'expérience d'aimer, l'expérience du dépassement du moi dans un épanouissement par l'autre qui me fait exister encore mieux moi-même parce que l'autre me donne quelque chose, m'apporte quelque chose que je n'ai pas et que lui seul peut me donner. Cette femme m'est si complémentaire si je l'aime que sa féminité donne à ma masculinité une dimension, une justification de la confiance que je peux donner, que je peux lui donner, telle que je puis donner un sens à ma vie avec elle. Et quand tu parles de ces couples qui durent dans l'amour depuis 50 ans, quand on peut évoquer aussi ces moines qui se donnent à Dieu pour toujours, il y a là certainement, et plus que probablement, un vertige insondable de la présence de quelqu'un en nous qui nous donne des raisons de vivre tellement profondes, tellement fortes, qu'elles peuvent devenir durables. Alors, la fameuse formule que tu citais, comme disait Gabriel Marcel, aimer quelqu'un, c'est lui dire « toi, tu ne mourras pas », cette formule admirable traduit probablement très bien cette expérience de l'amour de l'autre si indispensable que nous ne supporterions pas qu'il meure. Et quand dans les thèmes littéraires, Tristan et Iseult et bien d'autres, on est à la quête de l'amour éternel, il y a dans l'expérience d'aimer en ce sens-là quelque chose de si proche du désir d'éternité que nous aimerions bien sûr que ça ne cesse jamais. Et je pense que dans la foi évangélique au message du Christ, il y a quelque chose qui est du même ordre, bien que situé sur le plan de Dieu, c'est-à-dire de celui qui donne d'aimer dans le couple, celui qui donne de pouvoir s'ouvrir à l'autre pour l'aimer au point de vouloir vivre toujours avec lui. Au fond de ça, et c'est pour ça sans doute que le mariage est un sacrement, il y a l'amour de Dieu. Et Jésus disant, n'est-ce pas, « si tu aimes ton prochain au point de l'aimer comme toi-même, alors tu aimes Dieu ». Et je pense que l'homme et la femme qui s'aiment, elles se donnent l'un à l'autre, comme à leurs enfants, ne les oublions pas, Il y a l'amour de Dieu qui est au cœur, qui est au centre, sans quoi il ne pourrait sans doute pas se donner à ce point. Et la foi, elle est dedans, parce que cette confiance est nourrie justement par l'amour. Alors évidemment, être fidèle, c'est savoir entretenir la flamme de cet amour et passer par certaines épreuves en les surmontant, ce qui n'est pas évidemment donné à tout le monde. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin » et qu'il s'identifie au verbe de vie de la vie donnée, il s'agit de la vie donnée par amour. Et quand il dit cette phrase inouïe dans Saint Jean, « Je suis la résurrection et la vie », est-ce que ressusciter finalement ne veut pas dire que la mort n'a plus d'empire quand on aime et que cette espérance qui nous est promise, ça sera de traverser la mort pour trouver et retrouver enfin ceux qu'on aime et dont nous ne serons plus jamais séparés.
Pour terminer cette présentation du livre de François Gachou, « La philosophie comme exercice du vertige », voici quelques pages tirées du chapitre consacré au vertige de la dignité. Il s'appelle Michel Koryakov, journaliste russe, marxiste convaincu. Il combat dans l'armée rouge. Nous sommes début 1945, dans les derniers mois de la guerre. Offensive foudroyante en Pologne, puis en Allemagne. La partie est perdue pour les Allemands, mais ils combattent de toutes leurs forces. Le sort des armes est incertain. Koryakov sauve deux femmes allemandes de viol un matin où les Russes l'emportent. Mais les Allemands reprennent le dessus. Koryakov est fait prisonnier. Amené dans le camp allemand, le commandant le gifle violemment. Ses lunettes tombent à terre. Le colonel... « Vous êtes une de ces brutes qui outrageaient les femmes allemandes. » Mais une femme surgit, s'interpose et désigne Koryakov. « Cet homme a sauvé mes deux filles hier matin. » Alors, sans un mot, le commandant se baisse, recueille les lunettes et les tend à Koryakov avec respect. En un instant, l'ennemi haï est devenu un homme aux yeux du colonel allemand. Ce dernier a été saisi d'un profond vertige, celui de la dignité. Il a reconnu comme une révélation jetée en plein visage le surgissement de l'humanité du soldat russe. La dignité n'est pas autre chose, la reconnaissance de la valeur des valeurs, celle qui fait de tout être humain une personne. Par-delà les enjeux de la guerre, par-delà les idéologies, par-delà la haine et tous les clivages, par-delà toutes les raisons qui jettent depuis toujours les hommes les uns contre les autres, il y a, oui, il y a dans le tréfonds de l'âme humaine tout ce qui fait le prix de sa dignité. La dignité n'est pas un fait, elle n'est pas détectable à l'auscultation de nos organes, ni accessible par classification, par organisation de catégories. Elle est une valeur qu'on reconnaît. On reconnaît la dignité dans la transparence de son évidence, où on ne la reconnaît pas. D'abord, le colonel allemand ne la reconnaît pas. Pour lui, Koryakov est l'ennemi à combattre. Il classe cet homme dans cette catégorie. Il a fallu qu'il découvre que le soldat russe l'a précédé dans la reconnaissance de la dignité, celle de ces deux femmes allemandes sauvées du viol, pour que soudain, pris de vertige, il bascule dans une autre dimension, celle de la dignité humaine manifestée d'un coup à lui aussi dans la transparence. Moment rare, moment unique, celui d'une prise de conscience à la fois impérative et ineffaçable. Ce qui fait la valeur d'un être humain, ce qui fait sa dignité, c'est son inviolabilité. L'inviolabilité, c'est le sentiment premier, le plus profond, le plus inné sans doute, qui habite notre intimité, le plus enfoui, cependant, dans les lieux les plus inaccessibles de l'âme humaine. Il jaillit soudain quand la dignité est menacée. L'enfant de 3 ans, s'il est rejeté, s'il est victime d'une injustice, s'il est humilié, quelle qu'en soit la raison, est incapable de savoir pourquoi il est ainsi traité. Il ignore tout des raisons pour lesquelles on bafoue sa dignité. Mais au fond de lui, tout au fond, il perçoit l'injustice qui lui est faite. Il perçoit le mépris, l'ineffaçable marque de sa dignité non reconnue. Et cette marque-là, indélébile, va l'accompagner jusqu'au jour où quelqu'un, enfin, l'accueillera dans sa dignité. Comment ? En reconnaissant son inviolabilité, en la lui restituant, en le faisant naître à lui-même. Or, ce pouvoir-là ne se trouve pas dans les mains de l'enfant. Le pouvoir de faire naître un homme à son humanité se trouve toujours dans le regard qu'un autre lui porte, dans le don que cet autre lui fait de sa dignité reconnue comme inviolable. Nous le savons tous, seul l'amour que nous donnons a le pouvoir de transformer ceux à qui nous le donnons en faisant d'eux des êtres reconnus comme inviolables. Hors ce don et cette reconnaissance, il n'y a pas de dignité possible. C'est la raison pour laquelle la violence nous est intolérable. L'irrespect infligé à notre personne, le mépris, l'insulte, l'humiliation, l'injustice, la haine, la vengeance et le cortège de toutes les formes d'atteinte à notre dignité sont intolérables. Nous n'avons pas de mission plus impérative que celle-là, défendre partout et contre vents et marées l'inviolabilité de la personne humaine, la rétablir là où elle est piétinée, la promouvoir là où elle n'est pas reconnue et se répéter inlassablement en y œuvrant toute affaire cessante. Il n'y a pas de valeur plus importante que celle de notre dignité. Cela étant, une question se pose. Pourquoi éprouvons-nous tant de peine à reconnaître la dignité d'autrui, alors que nous sommes apparemment si enclins à réclamer des autres qu'ils reconnaissent la nôtre? C'est que d'une part, le lieu de notre inviolabilité est si insondable qu'il échappe à la perception de notre conscience. Il a fallu que ce colonel allemand soit saisi du vertige de cette révélation insoupçonnable pour qu'il reconnaisse en Koryakov l'évidence de sa dignité. Mais d'autre part, si le soldat russe n'avait pas sauvé 2 femmes allemandes en manifestant leur inviolable dignité, le colonel allemand n'aurait pas pu reconnaître celle de Koryakov. Autrement dit, nous voilà renvoyés au geste inaugural de la révélation de toute dignité, c'est la reconnaissance de ce que nous faisons et donnons à autrui qui rend possible qu'il nous reconnaisse en retour. C'est tout le contraire de ce que nous croyons. Nous pensons généralement qu'autrui nous doit la dignité et nous la réclamons, mais nous oublions, centrés sur nous-mêmes comme nous le sommes, que c'est seulement en nous donnant aux autres pour leur dignité que nous recevrons d'eux la reconnaissance de la nôtre. Le trésor de notre dignité se trouve dans le regard de ceux qui nous reconnaissent et nous aiment, et c'est à la mesure de ce que nous ferons aussi pour eux qu'ils pourront naître à leur propre dignité. Une fois encore, un grand merci à François Gachou pour la densité et la conviction de son propos. Je rappelle que son livre « La philosophie comme exercice du vertige » paru l'an dernier aux éditions du Cerf à Paris est disponible en librairie. À la fin de notre rencontre, François Gachou m'a dit qu'il est en train d'achever son prochain livre qui sera une approche philosophique de la résurrection. Un sujet peut-être plus vertigineux encore qui est au cœur de notre foi, résurrection du Christ et notre résurrection intimement liée. Vertigineux parce qu'il fonde notre foi, mais aussi parce qu'il échappe aux prises de notre raison. Insensé, disent certains, absurde, disent d'autres. Mais cette absurdité est un autre vertige qui fait sens, car il questionne notre foi et notre raison. On se souvient des propos de l'apôtre Paul aux Corinthiens sur la sagesse du monde, perdant la face devant Dieu, tandis que la folie des croyants, folie aux yeux du monde, finit par confondre les sages en devenant la seule sagesse possible. Comment la philosophie, tout en restant philosophie, peut-elle accéder à ce que nous appelons volontiers un mystère? Mais justement, le mystère n'est pas quelque chose de définitivement clos, il attend qu'on le questionne pour se dévoiler. Le mystère est comme le coffre d'un trésor qui est fermé jusqu'au moment où on en découvre la clé. Ce livre devrait paraître pour le temps pascal de l'an prochain. Pour renforcer l'unité de ces deux émissions, j'ai pris encore les respirations musicales dans les sonates pour piano de Domenico Scarlatti, interprétées magnifiquement par Christian Zacharias, un enregistrement sous le label EMI. Vous pouvez, comme toujours, obtenir un CD de l'émission en téléphonant au 026 422 18 91. Si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse n.ruffieux@bluein.ch. Je vous souhaite un beau dimanche du jeune fédéral.